merci d'avoir accepté notre invitation pour notre média Logos. Aujourd'hui, avec vous, pendant presque 1h, 1h30, nous allons démarrer ce premier hors-série concernant les religions et la place que les religions ont avec l'État. Dans cet entretien, nous allons échanger sur la religion chrétienne, la place de la religion chrétienne en lien avec l'État. Et avant de lancer les premières questions, les premiers échanges, frère Paul-Adrien, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous écoutent en quelques mots?
Donc, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre catholique depuis 7 ans et je suis aussi religieux, disons moine pour faire simple, donc pauvreté, chasteté, obéissance. Donc, ça veut dire que je suis frère et père, donc catholique. Et j'ai un apostolat, donc je parle de Dieu sur YouTube et sur Instagram. Donc, si vous tapez frère Paul-Adrien, et ben vous y retomberez, vous tomberez directement sur ma chaîne. Voilà, abonnez-vous. Hey.
Plus de 35 000 abonnés, non, si je m'abuse.
38 000 aujourd'hui.
Très bien. Donc c'est parfait. Alors je commence d'abord donc pour ceux qui nous écoutent par un petit avertissement. On va dire, on a bien conscience évidemment que vous êtes donc de confession catholique et donc que le catholicisme ne concerne pas l'ensemble du christianisme. Il y a également les orthodoxes et les protestants par exemple. Et donc voilà, dans cet entretien, je précise, on tâchera donc d'aborder la question du christianisme dans sa globalité, sans trop se focaliser sur le catholicisme, mais voilà, si jamais on dit des choses qui pourraient faire bondir au plafond nos auditeurs orthodoxes ou protestants, ils seront libres de nous signaler après en espace commentaire.
Cette semaine, c'est la semaine pour l'unité des chrétiens. Donc ça tombe bien, ça marche bien, et on fera attention à ce que tout le monde essaye de s'y retrouver, oui, puisse s'y retrouver.
Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. On va donc, sans plus tarder, commencer à rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, bon, voilà, l'Église catholique, ça a une longue histoire avec la France. Ça a longtemps été une religion d'État, sous l'Ancien Régime, et même après. Et donc, voilà, depuis cette fameuse loi de 1905, on va dire que l'Église et l'État ont pris des chemins un peu différents. Quelle est aujourd'hui, selon vous, frère Paul-Adrien, la place de l'Église catholique dans une société qui s'est progressivement sécularisée?
Qui s'est progressivement sécularisée et dans laquelle il y a de plus en plus de religions dans leur diversité.
Et on va y revenir d'ailleurs
un peu plus tard. La place qu'occupe la religion chrétienne, et plus particulièrement la religion catholique, c'est qu'en fait, en France, nous sommes la plus ancienne communauté. Nous sommes historiquement la religion qui est là depuis quasiment 2000 ans en France. Et donc, il y a quand même une sorte de mémoire de la France, de l'histoire de la France, de l'Église qui a marqué dans un sens comme dans l'autre cette histoire, et qui fait que, pour le meilleur et pour le pire, la religion catholique reste en France une sorte de référence. Et que bien souvent, des questions que l'on pose sur l'Église et l'État, sur la science et la foi, tout ce que vous voulez comme type de question, une des premières références, un des premiers interlocuteurs sera le catholicisme. Et je pense que, voilà, historiquement, ça fait des chrétiens la plus vieille communauté qui existe en France.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la pratique religieuse, donc vraiment strictement la pratique religieuse au-delà de la culture, est à un niveau, on va dire, qui était comparable au siècle dernier, ou qu'elle a petit à petit quand même perdu un peu de son influence?
Non, là, d'un point de vue culturel, on est historiquement bas. Alors, ça dépend ce que vous mettez par culturellement, mais en gros, normalement, un chrétien pratiquant, c'est quelqu'un qui va à la messe ou qui va au culte le dimanche, tous les dimanches. Bon, si jamais on regarde de manière un peu plus large, chez les catholiques, c'est quelqu'un qui va aller à la messe à Noël et à Pâques. Selon les pourcentages, ça varie. Chrétien catholique qui va messalisant, qui va à la messe tous les dimanches, on est entre les sondages, on est entre 1 et 5%. Ce qui est historiquement bas. Normalement, on devrait être. Si on compare aux pays où il y a autant de catholiques, je pense qu'on devrait normalement tripler le nombre de catholiques qui vont à la messe. Ça veut dire qu'il y a une spécificité de l'Église catholique en France, c'est-à-dire que dans tout le monde, on fait partie des pays catholiques où les catholiques vont le moins à la messe.
Donc, et du coup, est-ce que vous diriez qu'on peut toujours qualifier la France de pays catholique, comme vous le dites, comme vous, comme vous le dites, pardon, excusez-moi. Ou alors, est-ce que ce recul de la pratique religieuse permet quand même d'émettre quelques réserves à ce sujet ?
L'expérience que j'ai pu avoir des personnes que je côtoyais à gauche et à droite est que on a l'impression que la France est très largement déchristianisée, et j'ai eu l'expérience contraire dans le sens où il y a quand même, d'un point de vue culturel, beaucoup plus de restes du christianisme que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, je ne sais pas si on peut encore dire que ça fait de la France un pays catholique ou un pays chrétien, probablement pas. Mais en tout cas, je sais bien qu'en ce moment, on a tendance à minorer en se disant, comme il y a un recul historique du christianisme, il ne reste plus grand-chose, et ce n'est pas tout à fait l'expérience que j'ai pu en avoir au long de mes années de faire de catéchisme, de parler avec les gens, etc. Donc, il y a encore un important vestige culturel. Bah, par exemple, là, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait la galette des rois. Alors, je sais bien que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est difficile de faire le lien entre la galette des rois, le roi mage. Quand j'étais jeune, il y avait encore des fèves où c'était le petit bébé Jésus. Puis ensuite, on a eu Georges Marché. Puis ensuite, on a eu des bouteilles de Coca-Cola. Mais il y a quand même, voilà, les gens, plus ou moins, savent qu'il y a un lien entre la religion chrétienne et l'épiphanie. Donc, il y a encore des choses d'un point de vue culturel.
Et qu'est-ce qui, selon vous, a précipité, on va dire, ce recul progressif, malgré tout, de la pratique religieuse dans la vie de tous les jours des Français? Qu'est-ce qui a contribué à ça? Est-ce que c'est une hausse, on va dire, des modes de vie un peu contraires à la religion, si je puis dire, donc une pensée un peu plus consumériste, ou est-ce que c'est lié à d'autres facteurs?
Il y a beaucoup de facteurs, hein. Donc ça fait partie des réflexions constantes de savoir d'où tout est lié. Ce sera difficile de savoir exactement qui est en le haut du panier, mais vous avez cité le consumérisme, qui est un très bon exemple. Je pense que ça fait partie des principaux, d'une des principales causes, pas de la déchristianisation, mais de la déreligiation. Bon, bref, du fait que les gens sont moins religieux, ça veut dire que avant, les gens côtoyer la mort de manière quasiment quotidienne, ils ne la côtoient plus. Avant, les gens avaient un niveau de vie qui faisait qu'ils ne vivaient pas dans le confort, ce qui n'est pas vrai. Avant, il n'y avait pas les télévisions, donc il n'y avait pas téléfoot, etc. le dimanche matin. Ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, au Moyen-Âge, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas le théâtre, et que les seuls lieux où on pouvait, entre guillemets, se divertir, c'était en assistant à des grandes messes, ou à des grandes représentations religieuse. Donc, avec toute une sécularisation de la culture, avec l'avancée, ce qui est très bien, de la médecine, avec la science qui a répondu à de nombreuses questions, l'intérêt que donne la religion paraît moins évident aux yeux de certains. On le retrouve quand les gens sont à nouveau confrontés avec des décès, avec des deuils. Donc, on appelle ça, quand je faisais du catéchisme, on appelait ça la pastorale de la grand-mère. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un moment où l'enfant de 12 ans voyait sa grand-mère qui mourait, et là, on s'apercevait que, bah oui, on n'était pas éternel. Bon, ça fait partie des vraies choses de fond. Après, il y a aussi des loupés de l'Église catholique. Donc, par exemple, au niveau liturgique, je ne suis pas sûr que l'Église catholique soit dans ses plus grands fastes et dans sa plus grande attractivité. Vous regardez, par exemple, la religion protestante est plus attractive que la religion catholique. Donc, d'ailleurs, peut-être que ce qu'on vient de dire serait à revoir, par exemple, du point de vue orthodoxe et du point de vue protestant. Je pense que les protestants, en tout cas les évangéliques, sont plus pratiquants que les catholiques, et que ça tient en partie au fait qu'ils ont une liturgie, donc une manière de prier le dimanche, qui est plus attractive, avec des musiques culturellement plus modernes. Bon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre encore? Alors après, il y a les faux dossiers, hein, la science et la foi, le lourd passé historique de l'histoire, de l'Église. Quand on regarde dans les détails, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus subtil et beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît. Je pense que la question de fond, c'est quand même des conditions de vie plus confortables, ce qui est une bonne chose, mais ce qui fait aussi que les gens se posent moins de questions, ça c'est clair aussi. Probablement aussi un recul de la culture religieuse, mais culture tout court. Les gens ne connaissent plus forcément l'histoire. Enfin bon, bref, il y aurait plein de choses. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, il n'y a pas de consensus clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de causes qui expliquent le recul.
Et effectivement, il y a énormément de causes, et notamment ce qu'évoquait Christophe et ce que vous avez dit sur l'aspect consumériste, même au-delà, sur l'amélioration de la qualité de vie. qui peut être une des raisons de la, disons, décroissance démographique de la religion. Mais néanmoins, si on compare avec d'autres religions, il y a d'autres religions qui, elles, sont croissantes en termes de démographie, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, et qui pourtant sont sujettes également à ce rapport consumériste d'amélioration de la, du niveau de vie.
Alors, il faut voir, parce que je pense par exemple que chez les protestants, c'est sensiblement équivalent aux petites nuances qu'on a apportées. Donc, ils ont un culte, je pense, qui est plus moderne, en tout cas au niveau de la musique, donc ça marche mieux. Après, dans les autres religions, vous avez le New Age, ou tout ce qui est pratique associé. Donc ça, c'est peut-être la grande religion de substitution en France. Méditation, yoga, etc., qui se marie assez bien avec des conditions de vie confortables. J'ai quand même l'impression que ça reste une sorte de religion de luxe. Ce n'est pas tout le monde, ça veut dire que c'est dans certains milieux sociaux, j'ai l'impression. Il faudrait voir, statistiques à l'appui. Mais ça, c'est clair que ça se développe et ça se marie très bien avec une mentalité consumériste, c'est-à-dire que vous allez choisir votre professeur de yoga, vous allez choisir la manière dont vous mangez, vous ne mangez pas, vous allez choisir tel texte de tel moine bouddhiste qui vous plaît. Ça marche très bien. Alors après, évidemment, l'autre grande religion, c'est l'islam. L'islam, on est dans une autre problématique. Ça veut dire qu'il y a des questions que l'on se posait qui ne se posent pas du tout. Il y en a d'autres qui... Donc, par exemple, au niveau de la pratique, là, vous allez regarder peut-être pas forcément les gens qui vont aller à la mosquée, mais par exemple, le ramadan. Et le ramadan, ce qui est compliqué, c'est que c'est autant une pratique religieuse qu'une pratique culturelle ou sociale. Donc, en fait, ce qui, entre guillemets, protège l'islam, c'est le fait qu'il y a une communauté beaucoup plus homogène, beaucoup plus structurée, beaucoup plus forte, qui amène avec elle à la fois des pratiques religieuses, des pratiques sociales, des pratiques alimentaires, et que ça forme un tout cohérent. C'est-à-dire que quand vous êtes musulman, bah, vous changez de manière de... changer de manière de manger, vous changez de manière de prier, vous changez même de langue sacrée. Donc, il y a un aspect beaucoup plus communautaire chez les musulmans que chez les chrétiens, qui va à la fois les protéger contre une évolution de la société de laquelle ils ne vont pas forcément se retrouver, qui va aussi amener, ça je le voyais quand je faisais du caté chez les enfants issus de traditions musulmanes, qui va aussi amener des questions beaucoup plus tendues. Le rapport entre la modernité et la religion musulmane se fait de manière parfois encore plus violente. Donc ça, c'est encore un petit peu tôt. Hein. Ça vient d'arriver il y a 50 ans, l'islam, il y a 50-60 ans, n'existait pas vraiment en France. On va voir ce que ça va encore donner dans un siècle. L'islam avait aussi pu bénéficier d'un côté assez attractif, c'est-à-dire jeune, dynamique, où on propose des repères. Vous avez des questions, on vous donne des réponses. Ça, c'était assez fort, j'ai l'impression, il y a 20, il y a 30 ans, avec la mauvaise publicité qu'il y a eu avec les déviations fanatiques qu'il y a pu avoir à Daesh, etc. Je pense que ça a probablement desservi la réputation de l'islam en France par ricochet et que le phénomène d'attractivité de l'islam est moins fort en ce moment en France que ça ne l'a été il y a 20-30 ans. Tout ça serait à voir avec des statistiques. Hein. Ça, je vous dis comment je ressens les choses. Mais ça vous donne peut-être un panel des différentes religions. C'est ce que je pense, hein. C'est une opinion, tout ça serait à confirmer à coup d'enquête sociologique. Ce que je vous dis là, c'est plutôt mon ressentiment d'homme de terrain confronté à des hommes, à des athées, à des... ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai l'impression que l'athéisme est en recul. Alors, on n'arrête pas de nous dire que la France est un pays de plus en plus athée qui ne croit pas. Donc, on nous dit que, par exemple, il y a un sondage qui nous explique que la moitié des Français ne croient pas en Dieu. Je n'ai pas regardé exactement le sondage. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire que ne pas croire ou que de croire en Dieu, parce qu'on peut croire en plein d'autres choses que Dieu. L'impression que j'en ai toujours en homme de terrain, confronté pas mal au monde de la jeunesse, des étudiants, je regarde Netflix, etc., j'ai plutôt l'impression d'une sorte de recul de l'athéisme historique au sens nihiliste, que ça devient difficile de trouver des vrais nihilistes. Que ce qui est en train d'arriver, c'est une sorte de zone un peu floue entre des gens agnostiques, donc qui ne savent pas, qui ne sont pas forcément anti, mais simplement qui ne savent pas ou qui pensent qu'on ne peut pas savoir, et puis ce qu'on va appeler une sorte de retour un peu d'une culture païenne. Vous avez notamment ça dans Netflix avec beaucoup de séries qui parlent de sorcellerie, de séries d'héroïque fantasy, etc. est en train de se développer dans l'imagination populaire des gens quelque chose qui s'apparente à un retour du paganisme, un peu comme dans l'humanisme au XVIIe siècle, où vous aviez un retour des grands mythes historiques. Donc là, par exemple, l'exemple type étant Percy Jackson, qui sont des très bons films, hein, même si jamais j'en ai lu aucun ou j'en ai vu aucun. J'ai vu mes nièces qui les lisaient, ça avait l'air d'être très bien. Mais c'est intéressant de voir aussi ce qu'on vous disait, toute cette sorte de religion, de culture religieuse, une nouvelle culture religieuse qui est en train d'apparaître beaucoup plus floue, beaucoup plus païenne et beaucoup plus diverse. Par exemple, Netflix, c'est hallucinant. Vous allez sur Netflix, on voit que ça progresse. Vous regardez des épisodes comme The Witcher, ça c'est vraiment l'exemple type. The Witcher, c'est fascinant de déconstruire ça d'un point de vue religieux, quoi.
Est-ce que cela, du coup, vous pensez que ça dénote finalement, face à cette sécularisation, mine de rien, d'une certaine recherche de spiritualité, alors, qui peut être alternative au dieu traditionnel qu'il y a pu y avoir par le passé, mais d'une recherche d'une autre forme de spiritualité quelque part. Donc, vous parliez tout à l'heure de tout ce qui était méditation, inspiration asiatique, et là, de tous les éléments que vous venez de citer dans la pop culture actuelle. Est-ce que finalement, c'est pas une chose positive pour l'avenir de la spiritualité? Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui tend à corrompre finalement l'esprit de ce que doit être la spiritualité?
En tout cas, pour moi, c'est certainement pas une surprise. Ça veut dire que c'était quelque chose que l'on avait prévu depuis. Alors moi, je suis pas aussi vieux que ça, mais c'est quelque chose que l'on avait prévu dans l'Église depuis 50 ans. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide et que des gens qui ne croient en rien, c'est extrêmement rare et je suis pas sûr que qu'il y en ait vraiment des masses. Donc, le fait que les gens se posent des questions, veulent des réponses et vont finir par y en trouver, me paraît non seulement tout à fait normal, mais aussi tout à fait sain. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir l'aspect hétéroclite. On pioche à gauche et à droite et sans véritable effort pour essayer de voir ce qui pourrait être vrai, ce qui pourrait être faux, ce qui pourrait être juste. Il n'y a pas d'effort de rigueur. Donc c'est peut-être là où il y a quand même quelque chose qui, moi, à titre chrétien, me chagrine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable, je pense, d'effort, de rigueur intellectuelle, voire même de spiritualité. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui va faire du yoga le vendredi soir en faisant trois postures pour décompresser de son boulot, et puis un moine chrétien qui va faire ses 3 heures de prière par jour en jeûnant 3 jours par semaine, je veux dire, on n'est pas dans le même univers. Mais en tout cas, vous parliez de chance. Alors, je sais, en tout cas, je trouve que c'est normal, naturel, prévisible, de manière aussi étonnante, mais ça va dans votre sens. En ce moment, l'Église catholique, on a parlé d'un recul historique, en plus, avec toutes les histoires qu'il y a eu l'année dernière autour du rapport de la SIAZ, on ne peut pas vraiment dire que le catholicisme soit d'une forme olympique. Et pourtant, j'ai par semaine 3 personnes qui me disent qu'ils veulent se convertir au catholicisme. Donc, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 20, il y a 30 ans, je ne voyais personne demander à devenir chrétien. J'ai vu au contraire tous mes amis perdre leur foi. Et là, en fait, il y a, alors c'est peut-être marginal, mais quand même, il y a un changement de balance. Ce que je constate aussi, c'est que les gens sont quand même pas mal déstabilisés et pas mal malheureux, quoi qu'on en dise. Vous regardez en ce moment, il y a plus d'une personne sur deux dont le mariage est parti en divorce. La consommation d'antidépresseurs, alors j'ai l'impression de jouer au vieux curé con qui fait ça, mais quand même, il y a une consommation d'antidépresseurs qui devrait nous inquiéter. Il y a un recul statistique à l'appui du QI. Donc les gens lisent moins, les gens se posent plus de questions, les gens ne sont pas forcément en termes de bonheur, ils recherchent la liberté, bref. Donc il y a une sorte de fébrilité, il y a une sorte de fébrilité, d'inquiétude spirituelle qui commence à devenir importante. On va voir comment ça évolue. Une des questions qui va se passer, c'est est-ce que ça va se porter sur le niveau politique ou est-ce que ça va rester sur le niveau religieux? Pour ça, l'avenir le dira.
Quand vous citez Aristote et que vous dites « la nature a horreur du vide », la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas une remarque, disons, non pas de chrétien, mais carrément de croyant? Dans le sens où le sens de la vie pour un croyant se manifeste à travers Dieu, quand le sens de la vie, disons, d'un non-croyant, lui, va se manifester par ce qui se trouve sur Terre, par le système dans lequel il existe, lui, et un système dans lequel, lui, il trouve du sens. Vous voyez, en fait, est-ce qu'en fait, la nécessité de penser par Dieu n'est pas une nécessité de croyant, alors que le non-croyant, n'ayant pas l'habitude, l'éducation, je dirais même, la culture de penser par Dieu, fait qu'il n'a pas cette nécessité de voir par lui et qu'il trouve intérêt au sens de sa propre vie par le système dans lequel il vit.
Quand je dis croire, c'est pas forcément en Dieu. Je pense que ça veut au moins dire croire en quelque chose de plus grand que soi. Alors après, peut-être que c'est le système, même si jamais c'est ou l'État. Peut-être effectivement que c'est une remarque de chrétien qui cherche à voir Dieu un peu trop vite partout. Et que peut-être que les gens ne se posent pas. Mais on peut aussi déplacer la question et se dire que les gens, il y aura toujours un besoin naturel que les gens auront de rêver. D'avoir une vie qui les fasse rêver. Ça, vous voyez, c'est extrêmement large. Hein. C'est vraiment, on ne sait même pas si on est déjà en train de parler de Dieu ou pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on vit dans un monde avec une imagination qui est gonflée aux hormones comme jamais aucun siècle n'a vécu dans l'imagination. Enfin, il y a des écrans partout, il y a des films partout. Ce n'est pas du tout pour critiquer, parce que moi, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin dans l'homme moderne du 21e siècle de rêver beaucoup plus marqué qu'avant. Alors, ça se traduit par la consommation de films, par tout ce que vous voulez, et ça ne fait pas encore tout à fait le lien avec ce qui se reste dans la vie. Donc, il y a un aspect assez schizophrénique. Mais quand même, je pense que là-dedans, c'est assez symptomatique ou assez significatif d'une recherche de sens qui n'arrive pas à trouver des réponses dans le système actuel. Pour l'instant, ça se réfugie, je vous dis, dans un monde imaginaire. Et je vous dis, même là, les choses commencent à devenir plus floues entre la vie réelle et la vie... Enfin, je vous dis, pour moi, le lieu d'expérimentation de tout ça, c'est Netflix. Et c'est hallucinant de voir à quel point Netflix, de plus en plus, brouille les pistes. Et avec toujours cette idée de faire rêver les gens. Les gens ont besoin d'avoir, de vivre ailleurs parce qu'ils ont une vie. Enfin, voilà. Ça, je m'exprime mal, mais si vous voulez, le mot de croyance, de foi, etc., qui pose peut-être tout de suite la question de la vérité, et peut-être pas ce qui est au fond du problème, c'est peut-être plutôt la question du rêve, et d'avoir une vie qui soit belle, qu'on a envie de vivre, en vivant des émotions, en vivant des aventures. Et ce n'est pas dit que la vie moderne actuelle arrive à combler dans la vie réelle un homme de ce point de vue-là. Là, j'ai des doutes.
Et ça inquiète, vous, du coup, je vous fais représentant du coup, de l'Église, mais est-ce que ça inquiète l'Église, de manière générale, de perdre, entre guillemets, cette influence-là? Est-ce que vous êtes dans une dynamique de reconquête, c'est-à-dire d'aller chercher toujours plus de personnes, ou est-ce qu'il y a une certaine fatalité à se dire, bon, les gens se sont peut-être détournés de la religion. On laisse faire, on regarde, et puis si l'envie leur en prend, ils reviendront vers nous, ou sinon, tant pis.
Il y a certainement un peu des deux. Alors, plutôt que le mot de reconquête, le mot phare, c'est le mot d'évangélisation. C'est toujours cette idée que c'est dommage que les gens quittent l'Église. Et que c'est pas ce qu'on leur souhaite, c'est pas ce que nous leur souhaitons, et on espère qu'ils seraient plus heureux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il y aura constamment, mais ce sera par charité, la volonté de leur faire redécouvrir l'Évangile, qui pour le coup, on parlait de rêve tout à l'heure, est capable de faire rêver un homme. Il y a aussi un peu de fatalité, dans le sens où on voit bien la marée qui descend et que ça sert à rien de se battre contre la marée, puisque un jour il y aura une inversion de marée, est-ce que la montée remontera ? L'avenir le dira. On ne sait pas. La perspective chrétienne n'est pas de chercher du pouvoir ou de remplir les églises. La perspective chrétienne est de servir, d'aimer son prochain. Et la conviction chrétienne, quand même, de base, c'est qu'on est plus heureux en étant chrétien qu'en ne l'étant pas. Et donc, de ce point de vue-là, c'est normalement censé prendre aux tripes, en tout cas, moi, ça, c'est ce qui se passe, de voir que les gens... Enfin, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et puis de voir son prochain malheureux. Et les gens sont. Enfin, ça me frappe hein, de voir les gens malheureux. Hein. On n'en a peut-être pas forcément compte, mais à force d'entendre les gens pleurer, de sécher des larmes, de voir des mariages qui ratent, de voir des histoires de sensé partir à gauche et à droite, de voir les gamins de 17 ans. On a des gamins qui partent en dépression en 6e. Ça n'existait pas avant. J'en suis venu à la... Voilà, alors je parle au nom de l'Église, donc j'en sais rien. Mais il y a quand même cette conviction qu'il y a une recherche, il y a une possibilité d'être heureux pour de bonnes raisons à la poursuite de ce qui est juste, bon et noble dans l'Église, et qui normalement, alors on parle de salut, normalement ça remet les gens d'équerre, ça remet le droit dans leurs bottes. Et donc ça, c'est au fond de la perspective chrétienne. Et quand on voit les gens s'éloigner, on se dit, bah, c'est quand même dommage pour eux parce que c'est dommage. C'est dommage, c'est triste. Voilà, c'est triste.
Quelque part, l'enseignement de l'Église, et non pas le bénéfice, il y a un côté presque utilitariste, c'est pas l'objet de mon propos, mais le bénéfice, en fait, par le message qu'apporte la religion, en fait, permet aux individus de trouver un sens et d'éviter quelque part une dépression qui est grandissante et qui va de corrélation, enfin de plutôt une plutôt l'inverse, une décorrélation entre l'augmentation des situations de dépression avec la diminution de la croyance religieuse. Oui. C'est ce que vous dites. D'accord.
Très bien. Ça, je pense. Si vous voulez, je pense que la foi rend l'homme plus fort et que ça donne des moyens supplémentaires. Ça veut dire que quand vous avez une vie de merde et que vous êtes croyant, vous êtes capable de faire un signe de croix et de pleurer dans les bras de quelqu'un, et que Dieu est là et qu'il vous écoute. Eh bien ça, je ne dis pas que je suis devenu chrétien pour ça. Je suis devenu chrétien parce que je crois que c'est vrai. Je crois que Dieu existe d'un point de vue intellectuel, donc je suis pas, j'ai pas d'abord cherché une sorte de confident, etc. Mais quand même, je vois les bienfaits, donc ce qu'on appelle les bienfaits sociaux qu'une religion peut apporter. Bah ça, c'est quand même évident, quoi.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que la religion chrétienne en France est quelque part un peu réservée à une classe sociale. Et vous n'avez pas nommé cette classe sociale, c'est une classe sociale inférieure ou supérieure, mais je pense que nous serons d'accord sur le constat. Et un autre constat que je fais personnellement, c'est que...
Juste là-dessus, c'est bien de préciser que c'est peut-être plus vrai pour le catholicisme que pour le protestantisme.
D'accord.
Le catholicisme est plutôt, c'est plutôt les milieux maintenant sociologiquement middle class qui rentrent vers le haut classique.
Oui, oui.
Voilà. Avec quand même, alors vous voyez, par exemple, je suis à Évry, il y a énormément de personnes issues de l'immigration. Donc là, par exemple, le dimanche à la messe, je cherche les blancs et les seuls blancs qu'il y a à la messe, ce sont les prêtres. Mais ce qui est vrai, c'est que les protestants sont probablement, eux, encore plus issus de l'immigration.
D'accord. D'accord. En fait, la remarque que je voulais faire, c'est que l'on soit croyant ou non croyant, tous, lorsque l'on fait face à des difficultés de la vie, que ce soit pour des raisons économiques, familiales, peu importe, beaucoup s'en remettent à Dieu. Je pense que de nombreux non-croyants ont déjà fait, lorsqu'ils ont fait face à des difficultés importantes, une prière. Une prière qu'ils ont fait par opportunisme, pour demander justement de l'aide. Et les difficultés, pour en revenir justement à un sujet sociologique et notamment économique, ce sont donc les classes populaires qui subissent ces difficultés-là. Les classes populaires qui subissent donc qui subissent les effets sociologiques des effets économiques. Et pourtant, vous l'avez dit il y a quelques instants, dans la religion catholique, ce sont les classes supérieures, les classes moyennes supérieures qui sont majoritaires en termes de représentation. Donc en fait, les personnes qui subissent le plus de difficultés de la vie sont bizarrement les personnes les moins croyantes en France ou qui sont le moins proches de la religion catholique, parce que vous avez nuancé avec la religion protestante. Comment vous l'expliquez, ce paradoxe ?
Parce que là, vous parlez de difficultés économiques. Je suis pas sûr que ce soit principalement là où les gens soient malheureux. Moi, ce qui me frappe, c'est pas tellement la misère économique, il y en a, on se bat, mais il y a quand même un niveau, même dans les classes inférieures, au XXIe siècle, qui n'est pas comparable avec ce qu'il y avait il y a 2-3 siècles. C'est une pauvreté relative, on essaye d'aller vers le haut, etc., mais quand même, il y a la sécurité sociale, etc. etc. Ce qui me frappe, c'est la misère affective, c'est la misère conjugale, c'est l'incapacité à arriver à faire le deuil de quelqu'un. Ce qui me frappe, c'est la difficulté que les gens ont de faire le bien et le mal, qui est une sorte de gouffre d'énergie où on se pose des questions jour après jour. Et on va appeler ça des difficultés philosophiques existentielles. Je pense que ça, c'est beaucoup plus difficile à vivre et que ça cogne plus difficile que les difficultés économiques. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout sûr que ce soit les classes populaires qui écopent le plus. J'ai plutôt l'impression que c'est assez homogène quand vous regardez. Et je pense, c'est ce que je vous dis, hein, moi, ce qui me frappe, c'est d'abord la misère familiale. Et ça, c'est partout. Ça, c'est partout. Et à mon avis, il est principalement là le lieu de souffrance principale en France. On n'en parle pas beaucoup, mais il est là.
Pour en dire deux mots, effectivement, la remarque que je vous ai faite, c'est peut-être une remarque de non-croyant, pour revenir justement à cette opposition croyant-non-croyant, dans le sens où, pour une personne non-croyante, on va avoir une espèce de rationalité de la vie qui sera liée, encore une fois, au système. Et donc, tout de suite, sur le sujet du système, je vous rapporte un enjeu économique. Alors que vous, dans votre approche sur les difficultés personnelles que l'on peut rencontrer, il y a quelque chose de spirituel. Et effectivement, qu'on soit croyant ou non croyant, des difficultés, au-delà de l'aspect spirituel, mais des difficultés affectives, on les vit tous. Mais effectivement, c'est... comment dire j'ai du mal à aller au bout de ce que je veux dire, mais c'est... En fait, c'est une dénotation entre, je trouve, c'est vraiment une opposition de pensée et de schéma qu'il peut y avoir entre un croyant et un non-croyant sur la volonté d'avoir une sorte de rationalisme économique, de rationalisme d'État, de système de vie, mais construite par l'homme, et une rationalité de pensée qui serait plus davantage liée à un sujet spirituel.
Bah du coup, on va passer à l'autre grand thème, finalement, de cette série d'entretiens, qui est celui de la politique. Alors, la politique, je ne vais pas vous demander pour qui vous votez, mais plutôt du principe de cohabitation, on va dire, entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Alors, on l'a dit en début d'entretien, la religion chrétienne a catholique, plutôt, a fortement été impliqué avec le pouvoir politique pendant de nombreuses années en France. Aujourd'hui, le catholicisme est encore un État, si on peut considérer ainsi avec le Vatican, même si c'est avec une influence moindre. Vous, aujourd'hui, donc en tant que catholique en France, en République française, laïque, séparée de l'Église depuis plus d'un siècle maintenant, quelle serait votre définition du principe de laïcité? Et est-ce que c'est une notion qui, pour vous, est souhaitable et est-ce qu'il faut tendre vers ça? Ou alors, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est un petit peu flou et qui est peut-être un objet politique avec lequel vous voudriez prendre des distances?
Moi, je prends des distances. Alors, le principe de laïcité, je trouve ça très... En gros, que l'État ne subventionne pas des religions ou alors qu'elles ne prennent pas parti, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, je ne sais pas, mais je n'ai rien contre, je comprends. Vive la France. Ce que je trouve simplement, c'est que je fais partie d'un ordre religieux qui a été chassé de France au moment de la Révolution. On est revenu un peu en catimini à fin 19e siècle. On s'est refait chasser de France en 1905 avec la loi de séparation par l'État. On est revenu un petit peu en catimini après la Première Guerre mondiale avec la fameuse réconciliation dans les tranchées. Ce qui fait que dans mon ordre, on a encore hérité de ça, une sorte de traumatisme. Les couvents dans lesquels j'habite ne sont toujours pas à nos noms, c'est toujours encore avec des associations parallèles, dans l'hypothèse où on se ferait à nouveau chasser de France.
Je vous coupe juste un instant. Oui. Quel est votre ordre, du coup, pour...
Les frères, l'ordre des prêcheurs dominicains. Mais c'est vrai des dominicains, c'est vrai, en fait, de tous les ordres religieux. Alors, d'accord. C'est peut-être la mémoire longue de l'Église, hein, mais les franciscains, c'était pareil, les jésuites, c'était pareil, etc. Donc, si vous voulez, on s'en a pris pas mal plein la figure. La laïcité qui consiste à ne pas regarder les choses, à ne pas s'intéresser aux religions, empêche les hommes de se donner d'instruments pour comprendre ce qu'est vraiment la religion. Elle n'arrive pas à envisager qu'il puisse y avoir une mentalité religieuse à côté d'une mentalité laïque. Elle n'arrive pas à comprendre qu'il puisse y avoir une mentalité pour qui les textes sacrés sont plus importants que les textes politiques. Par exemple, même pour moi, l'évangile est plus important que beaucoup d'autres choses. Elle n'arrive pas à donner les moyens pour que l'on comprenne ça et que l'on puisse faire des choix éclairés et que la religion en France soit aussi un chemin de culture. Bon. Mais je suis, pour tout ça, pour vous dire, je suis assez dubitatif. C'est peut-être ça ce qu'il faut retenir, c'est que je suis assez dubitatif sur la laïcité qui, je pense, ne comprend pas ce que c'est qu'une religion.
Mais du coup, est-ce que pour vous, c'est chimérique finalement la laïcité? Est-ce que... Qu'est-ce que vous apporteriez?
Je pense que c'est naïf.
Qu'est-ce qu'il faudrait apporter du coup à ce principe,
Par exemple, si jamais je vous demande combien d'heures dans une scolarité, un enfant va étudier le christianisme. Le christianisme, pas au sens des moines au Moyen-Âge, hein, mais combien d'heures dans la scolarité un enfant va lire la vie du Christ ?
D'un point de vue historique, vous vous entendez ?
Ou d'un point de vue historique, ou même on prend un texte de l'Évangile et puis on parle de Jésus, son message. Il n'y a pas forcément besoin de dire que pour les chrétiens, c'est ceci qui est mort et qui est ressuscité, etc. Mais on étudie Jésus. Combien d'heures dans la scolarité d'un enfant on va étudier Jésus ?
J'imagine zéro.
Bon, il y en a peut-être une, je crois. Il y en a peut-être une en sixième. Et puis ensuite, ils ont le temps de l'oublier. Bon, donc, et puis pareil pour Mohamed. Pareil pour d'autres religions, etc. Mais ça veut dire quand même que quelque chose qui structure la vie, la mentalité, l'intellect de plus de la moitié des Français est totalement passé sous silence d'un point de vue scolaire. Ça veut dire que un musulman ne va jamais connaître la vie du Christ, un chrétien ne va jamais connaître quasiment la vie de Mohamed, un athée ne va jamais se poser ces questions-là, et donc il y a une méconnaissance totale de ces enjeux qui fait qu'on véhicule de plus en plus de clichés et de fantasmes. Et que ça, c'est dangereux, parce que les fantasmes donnent l'occasion à des gens violents ou à des gens peu modérés de s'exprimer. Et c'est là où je parle de naïveté, c'est que à ne pas rentrer, à refuser de mettre les mains dans le cambouis, eh ben on va finir par avoir un moteur qui va marcher de moins en moins. Donc il faut donner aux gens la capacité de connaître leur religion. Par exemple, quand je faisais mes cours d'éducation religieuse, donc on faisait pendant toute l'année de quatrième, on étudiait l'islam, et c'était la seule fois dans la scolarité où il y allait avoir 15 heures consacré à l'étude de l'islam, le collège étant majorité musulman, et c'était moi qui apprenais aux musulmans en très grande partie les fondements de leur religion, et j'essayais de le faire, j'espère que je le faisais bien, et c'était important pour qu'ils comprennent. Et c'est là où je parle de naïveté, c'est que à rester à l'extérieur, il y a une sorte de dégradation de la connaissance des religions qui va entraîner des problèmes et qui est déjà en train de les entraîner. C'est-à-dire, vous regardez la manière dont les gens parlent. Dès qu'on parle de religion, ça part tout de suite dans les tours. Tout le monde s'attrape, on part tout de suite dans les clichés, les fantasmes. On n'arrête pas de dire que la personne en face de vous est un facho ou un réactionnaire, ou alors qu'il ne connaît rien, etc. Et ça, je suis très préoccupé. Ça, je suis très préoccupé parce qu'il y a un climat social qui est en train de se dégrader, et au long cours.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que petite anecdote personnelle, du coup, quand j'ai parlé autour de moi de ce sujet de série d'interviews qu'on allait faire, j'ai eu des réactions qui me disaient « mais tu veux déclencher une guerre, ça va se taper dessus, ça va parler ». Donc notre objectif, et mon objectif aussi à titre personnel, c'était aussi de prouver qu'on pouvait parler de ce sujet de manière totalement pacifiée, posée, et d'avoir un échange, on va dire, constructif, comme vous dites.
Du coup, pour revenir sur ce que vous avez dit, si je comprends bien, en fait, au nom de la laïcité, on a totalement voulu laisser de côté les sujets liés à la religion, au nom justement de la séparation entre l'Église et l'État, et du fait que finalement la laïcité est un synonyme de non-reconnaissance de la thématique religieuse, et des signes même religieux, et que la volonté de dépasser les sujets religieux et de ne plus en parler, fait que les personnes qui n'ont pas cette culture, cette éducation religieuse, donc entre guillemets, disons clairement les non-croyants, a pour conséquence qu'ils ont donc une absence de connaissance de la religion et donc un comportement vis-à-vis de la religion qui serait, entre guillemets, radical, dans le sens où dès qu'une personne viendrait parler de la religion, le non-croyant viendrait à dire « Ah non, ton dogme religieux, radical, quelque part une sorte de mépris qui viendrait s'exprimer de la part du non-croyant envers le...
D'accord. Non seulement du non-croyant envers le croyant, mais j'ajouterais aussi du croyant envers les autres croyants.
Oui, parce que du coup, effectivement, quand je parlais de non-éducation à la religion, c'est effectivement les personnes de telle religion ne vont pas avoir un enseignement de l'autre religion et donc vont avoir ce même. Et je pense même que d'ailleurs, il y aurait un mépris qui serait équivalent voire supérieur, parce qu'il y aurait une espèce de concurrence entre les croyances, alors que l'athée quelque part se moque totalement. Il y a un déni d'importance entre guillemets du sujet religieux, et donc une importance, alors que les croyants des autres religions viendraient à se faire concurrence, à se dire non, ma religion dit ça, la tienne dit ça, c'est la mienne qui a raison, etc.
C'est exactement ça. Je pense que derrière la laïcité qui, à la base, est quelque chose de bien, à savoir on ne prend pas parti ou pas trop parti ou on refuse de dire qu'il y a une religion de référence, etc. Je ne sais pas si c'est bien, en tout cas, j'en prends acte. Et puis voilà, quoi, on a décidé que ce serait comme ça en France. Mais je soupçonne qu'il y a derrière aussi une certaine forme de mépris. Comme si la religion n'était pas digne d'intérêt et qu'on allait reléguer ça dans la sphère privée parce que ça vient polluer les entreprises où on ne parle pas de ça, parce que ça vient polluer l'école, parce que ça ne vient pas de ça, parce qu'on n'a pas à parler de ça. Et alors, ce que je soupçonne derrière, c'est que c'est là où on parlait de naïveté, c'est qu'en fait, derrière ce mépris, il y a aussi une certaine peur à ouvrir la boîte de Pandore, en se disant comment est-ce qu'on va faire pour aborder le problème tout de suite, si tout de suite les gens vont partir jouer aux gens choqués ou au contraire aux gens choquants. Et c'est là où il y aurait peut-être du courage à avoir pour se forcer à parler de ça et à pouvoir. C'est un objet d'étude comme les autres. Et à partir du moment où ça structure la vie de plus de la moitié des Français, il faut que ça trouve sa place. Il faut que ça trouve une place dans la vie publique et dans l'éducation, etc.
Et donc ça m'amène à une autre question qui reste dans le thème hein, de politique et de religion. Il y a, on ne peut pas le nier, du coup, une certaine proximité entre la politique et la religion, alors à différents niveaux. Hein, ça peut être par l'intronisation officielle d'une religion comme religion d'État. Alors, c'est plus le cas en France, mais ça l'est encore dans d'autres pays. Ou alors une proximité dans dans les thèmes ou dans les grands sujets débattus. Est-ce que pour vous, cette proximité entre politique et religion, dans les thèmes, là, pour le coup, on va plutôt prendre le cas de la France, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que pour vous, alors je vais citer l'évangile, vous me direz si je le fais bien ou pas, mais je prendrai le passage où Jésus dit donc de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement séparer la vie publique, c'est-à-dire les affaires, la loi des hommes, si je peux dire ça comme ça, et l'affaire spirituelle, donc la vie spirituelle, la loi de Dieu?
Alors, pour un chrétien, ce n'est pas tout à fait possible. Parce que la vie spirituelle, la vie de Dieu n'est pas que intérieure, et que normalement, ça doit aussi se traduire par une manière de se comporter en société. Donc, en fait, pour le dire autrement, il y a une recherche du bien qu'on espère aussi pouvoir porter dans la sphère politique. Un chrétien a quand même ce doux rêve, qui est peut-être un peu utopiste, mais que le lieu de la politique, ce n'est pas simplement un lieu de compromis ou de pouvoir ou de recherche d'efficacité, mais c'est aussi le lieu d'un bien particulier, d'un épanouissement particulier, que ça correspond à une volonté de Dieu, que c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait de la politique. Vous citiez l'Évangile. Tout de suite après, vous avez le Christ qui va dire à Pilate qu'il est roi, mais qu'il n'est pas roi de ce monde. Et puis encore, vous avez dans Saint-Pierre, les institutions qui existent ont été voulues par Dieu. Donc à la fois, il y a ce rapport de distance, parce qu'on pense que la politique n'a pas forcément à tout gérer dans la religion et que la religion n'a pas à tout gérer dans la politique. Pour dire les choses autrement encore, la politique a son autonomie propre, sa logique propre, ce qui demande à être respecté, comme la science. De la même manière que la religion n'a pas à s'occuper de science, parce qu'elle suit sa logique propre, de la même manière, le christianisme n'a pas à s'occuper de politique, parce qu'elle suit sa logique propre. Mais ce qu'on pense, c'est que sa logique propre s'est tournée, elle aussi, vers le bien. Alors, la science vers le vrai, la politique, ce qu'on appelle vers le bien commun. Donc, il y a des choses qui relèvent uniquement de la politique, qu'on ne peut demander qu'à la politique, qu'on va demander qu'à la politique. Alors, en ce moment, là où ça porte un petit peu, c'est dommage parce que ça, ce sont des sujets plutôt clivants. Bah, alors, si, par exemple, en ce moment, le grand lieu d'ailleurs qui coince, hein, le pape, le grand sujet politique du pape, c'est les migrants, qui n'arrêtent pas d'en parler, ce qui a un peu tendance à énerver les catholiques français parce que les catholiques français se disent, qu'est-ce qu'il vient nous expliquer l'Europe alors qu'il vient d'Argentine? Et en même temps, le pape fait son boulot de pape, et donc c'est très bien. Donc voilà, par exemple, le sujet en ce moment que le pape porte, qui est l'immigration, doit être traité par la politique. Ça, c'est le point de vue du pape. Vous en auriez d'autres en ce moment. C'est plutôt, en ce moment, la marotte des catholiques en France, probablement aussi des protestants, c'est les questions liées à la famille et à la bioéthique, Alors là, pour le coup, c'est curieux, parce que autant l'immigration dans la tête d'un chrétien relève de la politique, et c'est à la politique de s'en occuper, pour dire on n'en accepte pas, on les intègre comme ci, on les intègre comme ça, etc., mais ça relève de manière claire de la politique. Autant pour un chrétien, les questions de famille, de bioéthique ne devraient pas relever de la politique. Ça veut dire que, par exemple, les questions de la GPA qui devraient arriver, un catholique ne comprend pas d'où est-ce que ça peut arriver dans un programme politique. Il aura l'impression d'une sorte de politisation des mœurs sociales. Et donc là, par exemple, vous allez avoir l'effet contraire, vous allez avoir les catholiques, en tout cas, qui d'une certaine manière, aimeraient bien qu'il y ait moins de politique là-dedans. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets ? Sur les sujets purement économiques, il n'y a pas vraiment de consensus ni de débat dans le monde catholique. J'ai quand même l'impression que tout le monde voit un peu comme il veut les choses, avec quand même une sorte de consensus qui est de se dire que la dérégulation financière est quand même problématique. On parlait encore d'autres combats politiques. Alors ça, c'est plutôt la CEF, la Conférence des évêques de France, qui est très axée pour l'Europe. Donc, typiquement, la construction européenne, quelque chose qui relève de la politique et uniquement de la politique. Mais ça n'empêche pas que on trouve que c'est bien, justement, on trouve que c'est bien. Et donc, les évêques vont demander aux catholiques d'être particulièrement attentifs à cet effort-là. Et ensuite, ils vont laisser la paix aux catholiques, enfin, aux chrétiens qui sont engagés en commun politique, pour dire la construction européenne, il faudrait qu'elle soit plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Ça, pour le coup, ce n'est pas le boulot des évêques.
Mais du coup, il y a donc des sujets sur lesquels l'Église se positionne officiellement. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, tout ce qui concerne la bioéthique, et puis même d'un point de vue des questions migratoires, etc. Est-ce que, du coup, les chrétiens, donc les catholiques, même les chrétiens de manière générale, peuvent avoir donc une pluralité d'opinions politiques sur tous les sujets que vous venez de décrire, sans qu'ils soient, je dirais, alors peut-être pas officiellement, bien sûr, mais blâmés, c'est-à-dire, ou alors considérés comme mauvais chrétiens, parce que ne suivant pas, on va dire, ce que dit l'Église officiellement sur ce sujet.
Il n'y a pas beaucoup d'interdits. Donc, ça veut dire, en fait, ce qui serait le couperet, ce serait, par exemple, si tu votes ça, tu n'as pas le droit de venir communier à la messe. Point. Alors là, ça veut dire que vraiment… Donc, en gros, ou alors tu n'as plus le droit de dire catholique ou tu n'as plus le droit de te dire chrétien. Comme cas, il y a, vous ne pouvez pas être franc-maçon et catholique. Ça, l'Église vous dit que ce n'est pas possible. Il faut choisir, c'est incompatible. Historiquement, il y a eu le communisme… Encore qu'il y a eu beaucoup de chrétiens communistes, donc il faudrait voir. L'extrême droite est très mal vue du point de vue des évêques, mais quelqu'un qui va voter extrême droite ne se verra pas refuser la communion, parce que manifestement, les évêques ne poussent pas du tout dans ce sens-là. Mais c'est. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Là où ça va devenir compliqué, c'est quand on va. C'est toujours la question qui revient présidentielle après présidentielle, c'est sur les questions de la bioéthique. Mais donc, par exemple, est-ce qu'on a le droit de voter pour quelqu'un qui va légaliser la GPA ? Je vous dis ça parce qu'en ce moment, chez les catholiques, c'est un peu le traumatisme, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais je n'ai pas entendu parler de gens qui seraient excommuniés, etc., parce qu'ils auraient voté pour tel partisan. Par contre, vous voyez, Joe Biden. Il y avait des questions en Amérique, parce que comme sur la question de l'avortement, est-ce qu'il avait encore le droit d'être catholique ou pas ? Alors, d'une certaine manière, les questions ne se posent pas en France, parce qu'on n'a pas de catholique aussi haut placé, j'ai l'impression. Mais si on avait un président catholique qui légalisait la GPA, voilà, toujours pour reprendre, là, probablement que les évêques prendraient position de manière officielle pour dire non, ça, c'est pas possible, et puis tu n'es plus catholique. Mais c'est peu probable que ça arrive.
Pour aller donc, avec tout ça, est-ce que. Excuse-moi, vas-y, Pierre.
Vas-y, Christophe, vas-y.
Non, j'allais dire, du coup, est-ce qu'avec tous ces éléments, on pourrait, de manière un peu triviale, situer le christianisme, même le catholicisme, un peu politiquement ? Est-ce que. On pourrait le placer finalement sur un échiquier politique ou pas ? Est-ce que c'est pas possible parce qu'il y a trop de thèmes différents ?
En fait, non. Parce qu'on a l'impression que, alors typiquement, on va avoir l'impression avec tout ce que je vous dis sur la GPA, etc., que ça classe plutôt le catholicisme à droite. Mais en fait, vous avez aussi plein de catholiques de gauche. Donc par exemple, tous ceux pour qui l'immigration est importante, eux vont se retrouver plutôt à gauche. Et il y en a au moins autant. Et puis ensuite, vous avez ceux qui vont être contre l'immigration et contre la GPA, et ceux qui vont être pour l'immigration et pour la GPA. Enfin bref, c'est un joyeux bazar. Donc en fait, c'est très difficile de classer malgré les premières impressions. Je prends quelque chose de différent, je prends le pape. Quand le pape est arrivé au pouvoir, on avait l'impression de quelqu'un de gauche parce qu'il était très porté vers les questions sociales, vers l'immigration. Et quand on regardait dans le détail, quand il commence à vous parler du diable, quand il commence à vous parler de la nécessité de promouvoir une culture de la famille, etc., on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet affreux réac En fait, c'était tout simplement, j'ai l'impression, un chrétien. Donc, il y a des choses, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des sensibilités et ça ne correspond pas tout à fait ni à la gauche ni à la droite. D'accord. À un moment donné, ça déborde.
Pour aller dans le prolongement de la question que Christophe vous avait posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut être en fait un bon chrétien et un bon républicain en 2022 en comparaison avec le citoyen français des siècles derniers où régnait la monarchie de droit divin, et donc une époque où la religion était davantage dans la vie du citoyen, et au-delà même dans la vie du citoyen, était dans la vie du système.
C'est aussi difficile d'être un bon citoyen, un bon républicain, un bon français en ce moment que ça l'a été d'être un bon... Comment on veut dire par républicain, on dit quoi dans ces cas-là, un bon sujet, oui, un bon sujet au XVIIe siècle ou au XVIe siècle. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors il y avait peut-être plus de facilité, mais il y avait peut-être aussi plus d'hypocrisie. Peut-être que la religion était moins pure ou alors qu'elle pouvait servir à plus d'arrivisme social. En ce moment, on aura du mal à considérer que la religion soit un facteur d'arrivisme social. Donc, d'une certaine manière, ce qu'elle a perdu en pouvoir, elle l'a gagné en pureté, j'ai l'impression. Et que de toute façon, à partir du moment où l'enjeu n'est pas d'avoir ou d'exercer du pouvoir, mais de servir, il y a autant de mérite à servir un roi chrétien qu'à servir une république française, pourvu que cette république française veille à l'épanouissement de ses citoyens, ce qu'on peut raisonnablement espérer. Donc, de ce point de vue-là, ça ne change strictement rien. Et c'est en fait exact. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la tête d'un catholique, le modèle de base, ce n'est pas le Moyen-Âge ou les monarchies de droit divin. Le modèle historique du catholicisme, c'est l'Empire romain. C'est de là d'où nous avons parlé au tout début, on disait qu'on était une vieille communauté. Donc on a forgé notre théologie, on a forgé nos premières pratiques dans l'Empire romain. L'Empire romain était une république, elle n'était pas chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont terminé en prison et ça n'avait pas l'air de les traumatiser outre mesure et ça ne les empêchait pas de servir ou de s'engager pour l'État romain. Vous regardez l'histoire des premières communautés chrétiennes, il y avait déjà des hauts fonctionnaires, il y avait déjà, c'est très étonnant. Donc en fait, si vous voulez, alors c'est ça ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le mouvement de bascule historique, en ce moment, ce qui est en train d'arriver pour un Français, c'est qu'il est en train de se remettre dans la peau d'un chrétien de l'Empire romain. Donc, alors, si vous regardez sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur Christ, c'est sur Chantal Delsol, la fin de la chrétienté, qui reprend exactement ça. Tout ce qu'on se dit là sur les questions de laïcité, sur les questions d'exercice du pouvoir, etc., c'est en fait un retour au 4e, 5e siècle avant que le christianisme ne devienne une religion d'État. Et donc, on parlait aussi de culture pop, païenne, etc. Là encore, il y a une sorte de grand retour de balancier avec la Rome antique. Il y a beaucoup de points communs, beaucoup de différences aussi, mais beaucoup de points communs qui se mettent en place. Et donc là, en fait, dans la tête d'un catholique, c'est un nouveau logiciel ou un ancien logiciel qui est en train d'être réactivé, ce qu'on appelait les grands témoins du 1er siècle. Donc en fait, un catholique qui a fait son deuil du Moyen-Âge, qui a fait son deuil de la grande démocratie chrétienne des années 50, de toutes ces questions-là, ne se retrouve pas d'un point de vue intellectuel dépourvu, n'est pas désemparé. Dans la tête des chrétiens, les gens sont en train de retomber sur leurs pattes et on est en train de réactiver voilà, ce vieux modèle de l'implication du christianisme dans l'Empire romain et que ça marche assez bien. Est-ce qu'on pouvait être un bon chrétien dans l'Empire romain? Manifestement oui, ça a même été les meilleurs probablement. Allons-y gaiement. Ça c'est l'avantage d'être une vieille communauté dans un pays, c'est que... On a des antécédents historiques, pour le meilleur ou pour le pire, mais on a des antécédents historiques et ça permet de faire des analogies. C'est-à-dire la situation qui arrive actuellement, passé le choc des années 70-80, alors 70, le choc des années 90, ça continue de prendre de l'ampleur, des années 90, on commence à digérer. Bon, ben maintenant, les choses sont en train d'être digérées. D'un point de vue intellectuel, les choses sont en train de se stabiliser. À la fois, il y a beaucoup d'amertume chez beaucoup de chrétiens qui ont le sentiment d'être déclassés et d'être abandonnés, d'avoir énormément contribué au pays et puis de ne pas avoir de la reconnaissance de la part d'État. Donc, il y a encore beaucoup d'amertume. Beaucoup aussi de défaitisme parce qu'il y a beaucoup de combats politiques que les chrétiens choisissent. En gros, tous les combats sociaux que les chrétiens ont choisis depuis 30 ans, ça n'a pas marché. Le mariage homosexuel, puis tout ce qui va. Enfin, on parlait du début et la fin de vie, etc. Donc, je vous parlais d'amertume et un peu de tristesse ou de défaitisme, voilà. Mais ça, c'est en train de. C'était le temps, je pense, de digérer l'évolution de la société et on est en train de s'apercevoir que les choses sont en train de se stabiliser vers quelque chose qu'on en a déjà connu, en fait, avec beaucoup de différences, encore une fois. Là, je parle des points communs, mais beaucoup de différences. Et donc là, en fait, c'est le modèle de l'Empire antique qui est en train de revenir en force.
Ça m'amène finalement à notre dernier grand thème, grande thématique, mais non des moindres. C'est celle de la coexistence avec les. Enfin, de la cohabitation, ou ouais, de la coexistence avec les autres religions en France. Alors, aujourd'hui, donc monothéisme, abrahamique ou non. Ça peut être aussi les religions orientales. Je vais vous poser cette question. Je ne la poserai pas forcément de la même manière avec toutes les autres religions, étant donné que le christianisme a une place à part avec l'histoire de France. On en parlait tout au long de cette émission, en tant qu'ancienne religion d'État, du coup. Comment est-ce que vous, du coup, en tant que chrétien, dans votre vie d'homme d'église, vous abordez cette coexistence avec la religion et comment est-ce que vous la manifestez de manière concrète ou non et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il existe un dialogue interreligieux aujourd'hui en France? Et cela serait-il souhaitable ou non?
Alors, il faut voir, parce que c'est extrêmement vaste, hein, le dialogue interreligieux doit se décliner en autant de religions qu'il y a de dialogue interreligieux. Par exemple, dans le dialogue entre les chrétiens, en gros, avec les protestants de souche, luthéraux, calvinistes, etc., il y a un bon dialogue, mais ils sont en train d'être moins représentatifs face à la vague évangélique qui arrive, venue d'Amérique. Et là, pour le coup, le dialogue, on va dire, est un peu plus musclé, parce qu'en gros, les évangéliques pensent que les catholiques sont idolâtres, païens, hérétiques, etc. Donc là, typiquement, le dialogue interreligieux va consister à essayer de calmer les ardeurs des uns et des autres. Donc là, je pense qu'on en a pour 50, 70 ans, un siècle, à essayer de se découvrir, de cohabiter, etc., ensemble. Mais je suppose que ça va se faire tranquillement. Je ne vois pas pourquoi ça se ferait. Ça se passe déjà très bien en Amérique, donc ça va arriver en France. Il y a probablement une sorte de rodage à faire. Pour les dialogues avec les athées, ce n'est pas une religion, mais quand même, est-ce qu'il y en a? Il y a plutôt des grands débats intellectuels. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais il y a toujours. C'est intéressant parce que ce n'est pas un débat populaire. C'est un débat d'intellectuel ou de politique, non, intellectuel. Mais je ne sais pas, ça n'a pas beaucoup d'écho dans les religions, dans les classes, dans la vie de tous les jours, des gens de tous les jours. Vous allez avoir des grands noms, hein. Onfray, mais j'ai l'impression que concrètement, ça échappe quand même. En fait, ça intéresse les gens militants. Mais tout le monde n'est pas forcément militant. Bon. Le dialogue avec les religions, on va dire, issues de l'Asie, de l'Asie. Il n'y a pas vraiment de dialogue parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Comment je pourrais vous dire ça? C'est assez apaisé. J'ai énormément de frères, par exemple, qui prenaient des cours de yoga ou alors qui ont étudié le bouddhisme ou alors qui sont allés faire un séjour à gauche ou à droite ou je ne sais pas quoi. Donc il y a un dialogue, si vous voulez, mais il n'a pas besoin d'être thématisé, il n'a pas besoin d'être organisé, il n'a pas besoin d'être promu parce que il n'y a pas de. Oui, ça, voilà, enfin, je ne sais pas. Bon, ça marche.
Il n'y a pas de concurrence.
Il n'y a pas de concurrence. Oui, par exemple, un bouddhiste ne se positionne pas en concurrent par rapport à un chrétien. Pour le coup, c'est peut-être plutôt un chrétien qui aurait tendance à se positionner en concurrent vis-à-vis du bouddhiste. Mais un bouddhiste, vous lui dites que vous êtes chrétien, il vous dit bon, bah, très bien, sois un bon chrétien, et puis voilà. C'est assez déstabilisant parce que moi, ce n'est pas forcément Comme ça, mais ça fait peut-être toute la gloire ou tout l'honneur du bouddhisme. Enfin, je ne sais pas, c'est très rare en tout cas. Donc, il n'y a pas forcément de dialogue parce qu'il n'y en a pas besoin. Avec l'islam, il y a un dialogue officiel, mais il est officiel. Ça veut dire que je n'ai pas l'impression que dans la vie courante, etc., il y ait beaucoup de dialogue. Alors concrètement, là, ça va se passer en. Ça va se décliner en deux thèmes. Dans la vie courante, les gens ne sont pas là pour se chercher des noises. Et je ne sais pas s'il va y avoir un dialogue, mais en tout cas, il va y avoir une sorte de coexistence pacifique. Mais entre les militants, là, c'est compliqué. Entre les militants chrétiens d'un côté et les militants musulmans de l'autre, là, il y a quelque chose à surveiller. Là, il y a quelque chose à surveiller. L'expérience, ça fait partie. Les chrétiens ont peur des musulmans. Et peut-être qu'il y a quelque chose ici, si vous voulez comprendre ce que c'est la mentalité chrétienne, il faut comprendre ça. Les chrétiens ont peur des musulmans parce qu'ils ont en tête beaucoup de pays. Ils ont en tête beaucoup de pays où les chrétiens s'en prennent plein la figure de la part des musulmans. Et donc, dans la tête d'un chrétien, il y a cette peur de se dire, si les musulmans sont majoritaires en France, nous sommes les prochains, on va s'en prendre plein la gueule. On n'est pas là pour savoir si d'un point de vue historique ou pas, c'est vrai, hein, je ne suis pas là en train de... Je ne vous dis pas c'est vrai, c'est pas vrai, etc. J'essaye simplement de vous faire comprendre ce qui se passe dans la tête d'un chrétien. Et un chrétien a cette a peur. Ça explique beaucoup des questions sur l'immigration. Ça explique beaucoup de choses sur le dialogue interreligieux. Donc il y a, si vous voulez, de la part des chrétiens, il y a un dialogue. Il y a un appel constant de la part des évêques à plus de fraternité, plus de compréhension, plus de connaissances, qui est relayé par le clergé, qui est relayé, par exemple, c'est ce que je fais aussi sur ma chaîne, qui essaye d'être relayé parmi les chrétiens, mais là, il y a encore quelque chose qui n'est pas calmé, et que tant que ce ne sera pas calmé, on pourra pas le faire, c'est cette sorte de peur diffuse. Et voilà, et ça, c'est l'enjeu du dialogue, à mon avis, interreligieux entre chrétiens et musulmans. Et de ce point de vue-là, les chrétiens sont sur l'expectative, sur la vigilance. Ils se demandent encore qu'est-ce qui va arriver dans 50 ans. Et ils n'ont pas la réponse et je n'ai pas la réponse. Donc ça, si vous voulez, ça vous donne le véritable enjeu du dialogue interreligieux. Et je pense que je pense qu'en disant ça, je suis fidèle à ce que pense un chrétien. Encore une fois, c'est pas... Oui. Voilà.
Et par rapport au judaïsme, par rapport au judaïsme,
on n'en a pas parlé. Par rapport au judaïsme, il y a une sorte de fascination des chrétiens envers les juifs, parce que Jésus était juif et parce qu'il y a une sorte de culture juive. C'est génial d'entendre un juif qui vous parle de ces histoires, etc. Il y a quand même toujours un côté des paysans, amusants, je ne sais pas comment vous dire. Enfin, c'est toujours un peu logique. Donc il y a une fascination pour la culture juive. Le sentiment aussi que les Juifs ont beaucoup souffert et qu'à ce titre-là, ils ont le droit d'avoir des égards particuliers, ce qui est vrai. Et puis, voilà. Là où il va y avoir une difficulté avec les Juifs, par exemple, ça va être en Israël. D'accord. Mais là, on se place d'un point de vue politique. Ça veut dire que pour les chrétiens qui s'y intéressent, le sort des chrétiens à Jérusalem, par exemple, n'est pas mirobolant, quoi. Mais là, si vous voulez, on est en train de passer du côté de la religion juive à la politique juive. Donc, c'est autre chose. Pour un juif français vivant en France, en tout cas, j'ai pu entendre de la part de chrétiens des propos durs envers les musulmans. J'en ai pu entendre envers les athées. J'en ai pu entendre envers les évangéliques. J'en ai pas entendu sur les juifs. Donc, en fait, oui.
Mais sur les deux remarques que vous avez faites sur les craintes qu'il peut y avoir vis-à-vis des chrétiens, enfin, des chrétiens vis-à-vis des différentes religions, donc principalement des musulmans ou alors des juifs, c'est justement sur l'aspect politique. Les musulmans, vous avez dit que c'est justement le regard que les chrétiens ont dans les pays à majorité musulmane et du traitement que les chrétiens peuvent avoir là-bas. Et concernant le regard que les chrétiens ont concernant la vie des chrétiens en territoire à majorité juive, c'est justement le traitement que les chrétiens ont notamment en Israël. Mais l'aspect politique, il est compréhensible. Il est normal. Et je pense, c'est peut-être mon point de vue, je pense qu'il y a moins de crainte vis-à-vis des juifs que vis-à-vis des musulmans, parce que les juifs sont, en termes de démographie, sont beaucoup moins importants que les musulmans. Et la question que je voulais vous poser, c'est effectivement, l'aspect politique est important, mais est-ce que le message et la foi qui est véhiculée dans chacune de ces religions ne devrait pas permettre de dépasser cette crainte politique et devrait permettre justement aux différents croyants de se rapprocher?
C'est pas forcément le sentiment que j'en ai. Il y a une volonté. C'est ce que les chrétiens aimeraient. Je pense que c'est aussi ce que les athées aimeraient. Mais je ne sais pas si les musulmans. Alors là, je parle de l'islam, peut-être dans les milieux populaires, etc. Je ne sais pas s'il y a cette volonté de se rapprocher. Il faut avoir été dans. C'est ce que je faisais quand j'enseignais ou quand j'étais prof ou quand j'étais en contact avec des enfants musulmans. Il faut avoir vu un enfant. Qu'est-ce qui est impur pour un musulman? Réponse de l'enfant de sixième, les mécréants. Ça, il faut l'avoir entendu. C'est pas tous les musulmans, je ne sais même pas si c'est la majorité, c'est certainement pas la majorité, je ne sais même pas si c'est l'islam, le Coran, etc. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas si c'est juste ou pas juste de le dire ça.
Mais quelque part, si je peux juste vous couper et reprendre sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le sujet de la laïcité, c'est peut-être aussi dû à une non-connaissance de la religion et même des croyants eux-mêmes sur leur propre religion. Parce que si l'on prend l'exemple, alors là, allons dans l'extrême et prenons l'exemple d'islamistes qui s'engagent en faveur de l'État islamique. On a des personnes qui se sont engagées et qui, selon toute vraisemblance et compte tenu de ce qui a été trouvé, la connaissance de la religion musulmane de la part de ces personnes qui se sont engagées en faveur de l'État islamique était parfois très faible ou orientée vers une certaine idée de la religion qui va minimiser, voire caricaturer totalement la religion. Donc on est encore une fois sur ce côté non-connaissance de la religion qui fait qu'il y a ces dérives extrémistes. Et pour reprendre ce que vous avez dit sur le cas de l'élève en sixième qui a dit qu'est-ce que c'était, j'ai oublié votre
Qu'est-ce qui est impur pour un musulman?
voilà,
Je m'attendais à ce qu'on dise le cochon.
c'était donc
Le mécréant, c'est moi.
le mécréant. Quelle est la culture de cette et la connaissance de la religion de cet élève qui est sûrement donc croyant? Quelle est la connaissance lui de la religion? S'il y avait eu quelque part, alors voilà pour reprendre votre idée, m'accaparer votre idée, s'il y avait eu un enseignement non pas religieux, mais du message qui est véhiculé dans les différentes religions, il y aurait peut-être une mise en avant davantage de cette image de paix qu'on peut retrouver dans l'islam, qu'on peut retrouver dans le christianisme, et qui ferait ou surtout qui offrirait à cet enfant et à un ensemble d'individus une connaissance de sa religion, une connaissance de l'ensemble des religions, et surtout un enseignement du respect de l'autre, avant tout.
Eh bien ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est pour ça que je faisais de l'éducation religieuse et qu'on rebossait l'islam. Pour justement essayer de dépasser les préjugés, les caricatures, et puis. Mais ça veut dire que c'est exactement ce que vous dites. Il faut y aller. Il ne faut pas laisser ça à des gens dont on ne connaît pas la formation, dont on ne sait pas d'où ils viennent et dont on ne sait pas ce qu'ils disent. Ça veut dire que dans toutes les religions, vous avez la sorte de prédication officielle populaire, pardon, la sorte de prédication officielle, et puis une forme de prédication populaire. Et que généralement, la prédication populaire échappe au radar, parce qu'elle est moins visible, elle est plus diffuse, et c'est vrai pour toutes les religions. Là, voilà, dans le christianisme, je vois bien que les personnes que les gens écoutent ne sont pas forcément les gens dont les évêques parlent. Il y a deux sortes, voilà, il y a deux sortes de catégories de prédicateurs différents. Et que pour l'instant, la prédication populaire échappe au radar. Et que là, il y aurait une question de formation, etc. Maintenant, si vous voulez, ce que vous direz à un chrétien, c'est qu'il ne demande qu'à être convaincu qu'en développant ce qu'il y a de meilleur dans les religions à gauche et à droite, on obtiendra ce qu'il y a de meilleur et puis la forme de coexistence pacifique. Et que de toute façon, de toute façon, c'est évident qu'il faut le faire. Et puis, d'une certaine manière, c'est évident qu'on ne peut faire que cela. C'est-à-dire que le boulot des hommes, c'est de tirer le meilleur de leur propre tradition et que voilà, quoi, c'est pas sujet à débat. Point à la ligne, il faut leur donner les moyens, il faut le faire. Et un chrétien espère qu'on le fera et espère que ça suffira à le rassurer. Il ne demande que ça. Mais ça, il le dira après. Une fois que ce sera fait. Wait and see.
Christophe, est-ce que tu as une question ?
Non, écoute, je pense que c'était une magnifique façon de conclure tout cet entretien. Je pense qu'on va se diriger du coup vers la fin. Sauf si tu avais quelque chose à dire, Pierrick, non ? Pas question. Non,
on peut simplement vous remercier, frère Paul Adrien, pour cet entretien
merci
très
beaucoup,
intéressant.
Ouais.
Je vous remercie beaucoup.